Donc je m'appelle Garance Lequen, je suis journaliste indépendante depuis bientôt 30 ans. Et depuis 10 ans, je me consacre presque exclusivement à la Syrie, depuis le début de la révolution syrienne. Donc César faisait partie d'une équipe de photographes de la police militaire à Damas, qui travaillait pour le régime syrien. Et avant la révolution, ils étaient chargés de faire des photos de soldats décédés lors d'un accident, lors d'un suicide, d'un feu, pour pouvoir alimenter la justice militaire, pour pouvoir archiver ces décès, comme j'imagine dans beaucoup d'armées du monde. Mais au début de la révolution, en mars 2011, quelques temps après, on leur demande d'aller photographier des cadavres de personnes, de manifestants, notamment de Daraa, qui avaient manifesté et qui avaient été tués par balle lors de la répression du régime. Et puis, quelques temps après, on leur a demandé de faire des photos de cadavres, visiblement de détenus, de civils qui étaient morts dans les centres de détention du régime, et visiblement pas morts de mort naturelle. Très vite, ils s'aperçoivent que ces détenus sont morts sous la torture, ou alors sont morts de faim, ou de maladies non soignées. Et au bout de quelques temps, quand ils voient qu'ils sont chargés de faire ça, César est quand même très déstabilisé par cette sorte d'archive de la mort, en fait, macabre. Et il en parle à son meilleur ami, Samy, qui lui est un activiste au sein de la Révolution. Et César a envie de déserter, de quitter ce régime, qu'il voit évidemment criminel. Mais avec Samy, ils discutent et ils prennent la décision de ne pas déserter, que César ne doit pas déserter, mais qu'il doit rester à son poste et essayer de copier ses photos et de les transmettre à Samy. Parce qu'il faut savoir que le système carcéral syrien, c'est l'essence même du régime. La torture, la pratique des disparitions forcées, c'est un peu comme son ADN, c'est sa constitution. C'est comme ça aussi que le régime tient. Le régime tient par les mohabarat, par les services de renseignement, par les centres de détention, par la terreur qu'il diffuse à travers ses arrestations et ses disparitions forcées. Et de retrouver César, c'était vraiment essayer de le faire parler de ça. Et je pense que César et Samy sont à l'image des Syriens. Ils sont à la fois des héros. Ils sont des héros pas plus que les millions d'autres Syriens, en fait. Ils sont vraiment à l'image des Syriens. C'est vrai que le fait qu'il y ait le nom de César fait qu'on en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'est évident ce que César a fait, de copier toutes ses photos au jour le jour. Ça montre un très grand courage que Samy les ait aussi gardés chez lui tout ce temps-là, pendant presque les 2 ans où César a copié les photos. Samy les a gardés chez lui, enfin, sur un disque dur. Enfin, ça montre une très grande force. Mais comme tout, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de Syriens, en fait, comme beaucoup de civils, cette peur qui traverse la société syrienne depuis le père, depuis Hafez al-Assad, depuis les années 70, cette peur qui fait que c'est extrêmement difficile de faire défection quand vous faites partie du régime. Ce manque de confiance aussi dans l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai approché en parlant avec Samy et César, mais que j'ai approché aussi avec beaucoup de Syriens. Ce manque de confiance qui fait aussi presque partie maintenant de l'ADN de beaucoup de Syriens, qui a été inoculé par Hafez al-Assad et maintenant par Bachar al-Assad. Ils ont inoculé au sein de la société syrienne cette perte de confiance avec beaucoup de Syriens, il faut créer ce lien de confiance qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à imaginer, nous, occidentaux. C'est vraiment quelque chose, cette peur, on peut pas. Je pense qu'on ne pourra jamais la comprendre à 100%, c'est impossible. Quand on a grandi dans une démocratie, c'est très, très compliqué de comprendre parfois des attitudes, des réactions qui nous semblent absolument incompréhensibles, quoi. Mais en fait, non, elles ne sont pas du tout incompréhensibles. Elles sont compréhensibles si vous êtes syrien et si vous avez été élevé sous Hafez al-Assad ou juste sous Bachar al-Assad. Elles sont tout à fait compréhensibles. Mais nous, occidentaux, c'est à nous, occidentaux, d'essayer de comprendre. Et ça, ça demande du temps et je pense qu'on n'en est pas capable à 100%. Enfin, je pense qu'il faut reconnaître nos propres failles et nos propres difficultés. Donc, quand les photos sont divulguées au monde entier en janvier 2014, César et Samy sont sortis de Syrie depuis plusieurs mois maintenant et ils pensent que, j'ai envie de dire naïvement, mais naïvement dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ils pensent d'une manière humaine, d'une manière simple, que ces images vont arrêter la guerre. Ils sont persuadés qu'une fois que le monde entier aura vu ces images, le monde va comprendre de quoi le régime est responsable, de quel crime le régime est coupable, et ils pensent que ça va arrêter la guerre, tout simplement, que ça va arrêter les massacres. Ces photos, elles sont incroyables, dans le sens qu'on ne peut pas les croire, en fait. On n'arrive pas à les croire, parce qu'elles sont terribles, mais pas juste terribles parce qu'elles sont terribles, parce qu'on voit des cadavres, juste parce que la quantité de cadavres, l'état des cadavres, les numéros sur les cadavres, tout ça fait que on n'arrive pas à y croire et ces photos sont en couleur. Ça peut paraître aussi étonnant, mais de voir des photos comme ça de cadavres numérotés, forcément on pense à la Shoah, on pense à l'Holocauste. Là, on avait des photos d'aujourd'hui, d'actuel, et on savait que quand ces photos étaient montrées, on savait qu'au moment où on montrait ces photos, il y avait la même chose. Au moment même où on se parle, nous, ça continue, les tortures continuent. Là, vous avez un moment où, dans votre cerveau, vous ne pouvez pas faire la connexion. Enfin, c'est une façon d'expliquer un peu le refus de la communauté internationale et des hommes politiques de voir. Alors, qu'est-ce que la divulgation de ce dossier a changé? J'ai envie de dire rien. Ou alors, ça a montré à quel point nos politiques ne voulaient pas se saisir de la question syrienne, ne voulaient pas se saisir des crimes, étaient embarrassés face à la position de la Russie, plus tard avec le soutien de l'Iran au régime syrien. Bien sûr qu'on parle de ce dossier, bien sûr que ce dossier est extrêmement important, que le dossier César est au cœur maintenant des preuves des crimes du régime. Il est au cœur aussi, entre autres, des procès judiciaires, notamment en Allemagne, on en parlera plus tard. Mais au niveau diplomatique, moi, je pense qu'il n'a rien changé, en fait. Je pense qu'il n'a rien changé, non. Comment dire ? En fait, les dictatures, quand elles torturent quelqu'un, elles ne laissent pas juste des traces sur la peau. Ça va bien au-delà, en fait. Elles essayent de détruire la mémoire. Elles essayent de détruire la transmission de cette mémoire. Elles essayent de détruire l'âme des gens. Et du coup, elles essayent de réduire au silence les gens. Et en fait, l'idée d'écrire ce livre-là, c'était d'écrire en fait le récit des Syriens, qu'il puisse être écrit, voilà, quelque part. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'allait devenir ce livre, je ne sais pas ce que moi-même j'allais faire après, je ne sais pas, voilà. Mais le but premier, c'était ça, c'était d'écouter et c'était d'entendre, d'essayer vraiment d'entendre le plus possible. Et ensuite d'écrire. Les dictatures, en fait, elles surfent sur les peurs et Bachar el-Assad a surfé sur nos peurs d'occidentaux. Et quelles sont nos peurs d'occidentaux ? C'est le terrorisme. Et le terrorisme pour nous, qui est-ce ? Ce sont les barbus, ce sont les musulmans, ce sont les femmes voilées, c'est l'islam en fait. Et parce qu'on a, nous, en tout cas en France, un rapport très compliqué avec l'islam. Et Assad, pendant de nombreuses années, s'est présenté comme le défenseur de la laïcité, de la civilisation. Il n'a pas arrêté de dire « c'est moi ou le chaos ». Mais c'est lui, en fait, le chaos. C'est lui qui crée le chaos. Et en 2014, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, on parlait presque exclusivement que de Daesh. Bien sûr, Daesh est une organisation terroriste. Bien sûr que, en plus, en 2015, il y a eu des attentats en France, etc. Mais il ne faut pas oublier quel est le principal criminel en Syrie. C'est le régime, quoi. Et donc, le dossier César avait cette force-là aussi en lui-même de pouvoir contrer le négationnisme et la désinformation et de pouvoir contrer la propagande du régime syrien. Ce procès est extrêmement important, d'abord parce que c'est le premier procès. Et de rentrer dans cette instance judiciaire, c'est une façon de reconnaître aussi les crimes, c'est une façon de reconnaître qui est le bourreau et qui est la victime. Et ça, c'est extrêmement important pour aider les victimes à se reconstruire, parce qu'il faut penser à la Syrie d'après, il faut penser même aux enfants que vous élevez, tous ces réfugiés qui sont en Europe. Comment ils peuvent transmettre la mémoire de leur pays à leurs enfants? Comment les enfants vont grandir? C'est important, ça, c'est important. En plus, quand on voit, bon, ça, c'est, on va au-delà, on n'est plus vraiment dans le sujet, mais quand on voit comment ces réfugiés peuvent être traités en Europe, mais enfin, ces réfugiés, ce sont vous et moi, ce sont des gens comme nous, ce sont pas des pauvres gens qui viennent demander asile, ce sont des gens courageux, ce sont des gens qui ont une histoire de dingue, ce sont des gens parce que faut un foutu courage quand même pour être réfugié, faut un foutu courage pour quitter son pays, même si son pays est détruit, quoi. C'est pas simple, c'est faut un foutu courage pour partir dans un pays où vous ne parlez pas la langue, où faut tout reprendre à zéro, quoi. Quand vous avez 40 ans, 50 ans, comment voulez-vous apprendre une langue étrangère? Enfin, c'est quelque chose Et je pense que ce procès peut aussi nous aider, nous, Occidentaux, à mieux comprendre d'où viennent les Syriens, qui ils sont, et ce qui se passe dans leur pays, pour comprendre un peu mieux comment ils peuvent vivre aujourd'hui et comment on peut les accueillir aujourd'hui. La Syrie nous a montré, en fait, les désordres du monde. La Syrie, le refus d'aider les Syriens, le refus de reconnaître les vrais criminels, en fait, ça va nous retomber dessus. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas refuser de voir. On ne peut pas. Voilà, c'est à nous de réfléchir. Et c'est à nous de. Il n'y a pas juste eux et nous. Il y a nous. Il y a nous tous ensemble. Donc c'est ça. Et c'est ça aussi que peut amener le procès de Koblenz, quoi. Essayer de. Et ça, c'est pas encore tout à fait arrivé. Je pense que le procès de Koblenz n'a pas été assez couvert médiatiquement. Voilà, peut-être qu'il le sera encore plus quand il y aura le jugement d'Anwar Aslan en octobre ou novembre, ce procès raconte notre monde et ne raconte pas que le monde syrien. C'est ça qui est important. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas encore assez mesuré. Ben, en fait, ce qui était intéressant pour moi en tant que journaliste, pour mon travail, c'était que je pense que je me suis un peu plus rendu compte de l'importance du témoignage dans une enceinte judiciaire, de l'importance de ce procès, ne serait-ce que symboliquement, même si les peines, voilà, vont être plus ou moins élevées, que ce sont pas des grands criminels, c'est pas le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 1 du régime, évidemment, c'est pas Bachar al-Assad qu'on juge, c'est pas Jamil Hassan, Ali Mamlouk, non. Mais il y a quelque chose d'extrêmement fort, et ça, d'y être allé et de vivre moi-même cette expérience, je trouve ça intéressant pour la poursuite de mon travail, pour voir l'importance de la justice, et puis aussi, d'une manière personnelle, de me dire que je n'avais pas fait ce travail en vain, parce que j'ai passé quand même des années à douter, à me demander à quoi ça servait, à quoi je sers, mais je pense que c'est le cas de tous nous, quand on travaille sur de tels sujets, quand on voit l'aveuglement de la communauté internationale, quand on voit la paralysie de la communauté internationale, quand on voit que les crimes se poursuivent, on se demande à quoi on sert. Je pense que je me suis sentie passeuse, en fait, et à un moment j'ai passé aussi. J'ai passé ce que j'avais gardé et ce que j'avais compris du conflit syrien, ce que ce dossier m'avait fait comprendre, ce que Samy et César m'avaient fait comprendre. J'ai pu le donner à mon tour, en partie, et c'est vrai que c'est intéressant, c'est stimulant, ça permet de d'amenuiser un peu les doutes. Et ça permet de redonner un peu de force, ouais, pour continuer. La communauté internationale pourrait faire, c'est... Elle peut tout et elle peut rien, quoi. C'est un peu compliqué. Elle devrait pouvoir aider à la réparation des victimes. Elle pourrait aider en refusant le dialogue avec les criminels, en refusant le dialogue avec Bachar el-Assad. Elle pourrait aider en tapant du poing sur la table avec Vladimir Poutine, qui soutient Bachar el-Assad. Mais évidemment, c'est extrêmement compliqué puisque la communauté internationale, elle est faite de nations. Donc, elle est faite de négociations et de dialogues entre ces nations. Donc, c'est là où il y a un problème. Il faudrait que la communauté internationale pousse à la justice internationale, pousse à la création d'un tribunal pénal international, pousse à la saisine de la Cour pénale internationale, ce qui est pour l'instant impossible puisque la Syrie n'a pas signé le traité de Rome qui institue la Cour pénale internationale. Donc, pour l'instant, la communauté internationale, je la vois encore paralysée, mais j'espère que son principal rôle pour l'instant serait de reconnaître ses crimes, de reconnaître le témoignage des victimes, de reconnaître les victimes, et ensuite pouvoir soutenir, une fois qu'il y aura un changement politique en Syrie, de pouvoir soutenir les Syriens pour qu'ils puissent instaurer une justice dans leur propre pays. C'est difficile d'imaginer ce que pourrait être la Syrie dans 10 ans, ou même d'avoir un espoir. 10 ans, c'est à la fois loin, mais c'est demain, 10 ans. Et là, ça fait déjà 10 ans de révolution, et personne n'aurait imaginé que les Syriens en soient là 10 ans après. Donc, en revanche, ce que j'imagine, peut-être sans avoir cette limite de 10 ans, mais j'imagine une reconstruction humaine, j'imagine un foisonnement, j'imagine des discussions sans fin de parents avec leurs enfants, j'imagine une sorte de bouillonnement pour reconstruire la Syrie, et en même temps, même le mot de reconstruction, je ne sais pas si c'est un mot approprié, mais j'imagine quelque chose d'extrêmement stimulant, intellectuellement, humainement, pour ceux qui veulent bâtir une nouvelle Syrie, pour ceux qui veulent détruire cette peur, cette terreur qui a été inoculée dans le peuple syrien pendant des années. Ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est ça que j'imagine, ouais. C'est cet espoir-là que j'ai. J'ai cet espoir-là pour les Syriens. J'espère qu'un jour, ils vont connaître cette période ouais, extrêmement stimulante de bâtir. Et j'imagine que les enfants de réfugiés qui sont arrivés en Europe, qui ont grandi en Europe, qui ont été éduqués en Europe, puissent faire profiter de leurs nouvelles compétences, de leurs diplômes, de leurs... puissent faire profiter leur pays, la Syrie, pour bâtir, voilà, cette nouvelle Syrie. Et c'est ça que j'imagine de général, enfin de voilà, d'une génération à une autre. Ouais, c'est ça que j'espère pour les Syriens.